Vous écoutez
RMC.
RMC, Apolline Matin,
le débat.
C'est vendredi, le débat, droite-gauche, Charles Consigny, Cécile Duflot, bonjour à tous les deux. La course à la présidentielle de 2027, elle est clairement lancée. Dimanche, Jean-Luc Mélenchon a donc officialisé sa candidature, quatrième candidature. Est-ce qu'il écrase tout, Jean-Luc Mélenchon, avec cette candidature? Est-ce qu'il peut réussir son pari? D'abord, Cécile.
Alors, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, on ne sait jamais exactement comment finit une campagne présidentielle, ouais. Et encore moins un an avant. Si on accepte la dernière qui était très particulière après le Covid, à la même période, il y a 10 ans, c'était sûr, Alain Juppé allait être président de la République.
C'est vrai que c'est ça.
Et il y a 15 ans, c'était Dominique Strauss-Kahn. Le 8 mai 2011, c'était sûr, Dominique Strauss-Kahn était le président évident. Donc, je pense qu'il faut toujours regarder les choses avec prudence. Et je crois aussi que là, on va être dans un moment où les Françaises et les Français, à mon avis, vont attendre qu'il se passe un peu quelque chose.
Mais il a quand même pris tout le monde de vitesse.
Enfin, en même temps, je sais pas qui était surpris qu'il soit candidat. On a l'impression qu'il est candidat non-stop depuis la dernière présidentielle.
Charles.
La gauche est dans une situation paradoxale avec un excellent candidat de premier tour qui est Jean-Luc Mélenchon et qui est en même temps leur pire candidat pour le second tour. J'ai lu que François Hollande, qui vient de lancer les jeunes avec Hollande...
Oui, tout à fait, c'est vrai que j'ai vu cette information également passer.
Moi, j'aimerais bien les rencontrer, les jeunes avec Hollande. Ça m'intéresse quand même. Parce que...
Je sens poindre une petite ironie chez vous, Charles.
Dans ce cas-là, faut quand même consulter. Mais je sais pas s'ils sont nombreux. Mais bon, j'aimerais les voir. En tout cas, j'ai vu que les hollandistes prédisent la fin du moment Mélenchon d'ici à cet été. Donc d'ici un mois et demi, soi-disant, Mélenchon aura baissé. Et ils pourront à ce moment-là, à partir de septembre, reprendre un avantage. Moi, ce que je vois en réalité, c'est que la gauche n'a pas de candidat. Pas de candidat au sens, pas de candidat qui est susceptible d'emporter une adhésion suffisante.
François Hollande, Bernard Cazeneuve, Raphaël Glucksmann, François Ruffin, ils sont quand même très très nombreux
donc,
à être sur la ligne
candidat,
de départ.
Donc personne, autant dire personne, sans vouloir être méprisant. Je pense qu'il n'y en a aucun qui est capable vraiment de susciter un engouement, un enthousiasme dans le pays et que donc cette année n'est pas, enfin l'année prochaine n'est pas une élection pour la gauche.
L'année prochaine n'est pas une élection pour la gauche, Cécile Duflot ?
Je suis pas d'accord et pas par l'absence de candidats parce que effectivement plus il y a de candidats moins il y en a, mais c'est valable aussi à droite d'une certaine manière, et je crois qu'une des raisons c'est qu'il y a une fatigue du côté homme providentiel, notamment parce que Emmanuel Macron a poussé jusqu'au bout du bout du bout du bout l'incarnation individuelle. Il a fait en sorte qu'il y ait plus de gouvernement et évidemment pas de parlement, il y a lui tout seul, et je crois qu'il y a une grande fatigue globale à cette idée qu'on va mettre tout notre avenir dans les mains de quelqu'un. Et donc le sujet et le débat va peut-être être plus intéressant, c'est quelle solution, en particulier dans un monde extrêmement perturbé par des conflits armés très importants qui engagent les deux superpuissances de notre planète, par la crise écologique qui s'aggrave parallèlement à une crise géopolitique qui du coup fait peser de manière extrêmement forte
l'avenir,
et la question de notre modèle économique, notamment d'un modèle fortement consommateur de pétrole. Donc du coup je crois qu'il va y avoir un débat sur les sujets de fond. En fait il y a une attente bizarrement que cette élection présidentielle se fasse moins au nom des personnes mais sur c'est quoi les solutions pour la France.
Mais ce serait merveilleux si,
Je crois que ça peut arriver
si on était comme ça dans cette approche dépassionnée de la politique sur les sujets de fond, etc. Moi je n'y crois pas du tout. Je pense que malgré tout l'élection présidentielle reste cette élection bizarre et un peu magique et un peu qui tient de l'épopée où tout à coup quelqu'un agrège à lui comme ça une espèce d'énergie et d'électricité. Et ça, je crains que ça n'ait pas changé. Malheureusement, il se trouve que pour l'instant le seul qui arrive plutôt à faire ça, c'est le jeune Bardella. Qui, à mon sens, aussi n'est pas un vrai candidat non plus, parce qu'il a pas l'âge requis pour le poste. Et ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Pour moi, c'est quand même un vrai sujet. C'est-à-dire que moi, j'ai 36 ans, bientôt 37. J'ai bien vu en quelques années la maturité qu'on prend à cet âge-là.
Vous êtes plus mûr aujourd'hui,
Charles. Je me trouve. C'est pas ça, mais je vois bien que je suis plus mûr qu'à 25 ans.
Donc vous êtes prêt?
Oui.
C'est ça que vous êtes en train de dire ce matin.
Moi, je suis bien plus prêt que le jeune Bardella. Oui.
Ah.
Donc en tout cas, ce que je constate, c'est que il y a une espèce d'intérêt vers lui, Et donc très personnel, même si derrière, là où je rejoins Cécile, c'est pas tant une question de programme qu'une question de machine. C'est-à-dire qu'il y a toute la machine électorale du RN.
Disons un mot aussi du centre. Édouard Philippe, Gabriel Attal, ça vous paraît crédible, pas crédible?
C'est le même syndrome en fait. C'est-à-dire que, et je crois, et ça n'est pas du coup une formule, c'est que justement parce qu'il n'y a pas cette électricité et la personne qui rend tout attractif, qu'il y a de l'espace pour que le processus se fasse dans l'autre sens. C'est-à-dire, je suis d'accord en partie avec Charles sur l'incarnation. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une histoire qui se crée autour d'une personne à qui on fait quand même un minimum confiance. Mais cette confiance, elle peut aussi procéder de la manière de gouverner. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'intéressant. C'est que je crois que, en fait,
Édouard Philippe, Gabriel Attal, vous trouvez qu'ils jouent là-dessus ou...
En fait, c'est juste la continuation de l'histoire qu'on connaît.
Les deux anciens premiers ministres d'Emmanuel Macron.
Après, moi, je suis à l'ancienne. Donc, je suis toujours très gênée quand des gens ont eu une existence politique qu'ils n'avaient pas avant, uniquement à cause de quelqu'un, en l'occurrence là du président de la République, et qu'ils expliquent qu'ils sont totalement différents, qu'ils lui doivent rien, qu'ils ont leur existence propre. Et en fait, je crois que d'ailleurs que ça marche jamais vraiment bien.
Quoi, c'est de l'ingratitude?
Ça donne un sentiment quand même pas très sympa de quelqu'un qui peut faire ça et se retourner contre celui qui lui a donné sa stature. Ça gêne toujours.
Là-dessus, Charles?
Non, s'agissant du jeune Attal, il va pas aimer ce que je vais dire, mais pour moi, c'est quand même un peu la Macronie dans ses pires travers. C'est-à-dire, c'est beaucoup d'ego, beaucoup de com, peu de fond et pas de position claire ni de ligne claire. Je dis les choses comme je les pense, si c'est très bien ce que je pense.
Il va finir par être d'accord avec moi sur la question.
D'accord tous les deux.
Non, et Édouard Philippe, je pense que tout le monde enterre Édouard Philippe. Moi, je ne l'enterre pas parce que je constate que depuis quand même maintenant de nombreuses années, il arrive à rester quand même dans la course. Il est dans une espèce de course de fond. Et son côté président de la France, Peugeot 5008, France à peu près prospère, des gens qui gèrent bien leur vie, qui veulent pas que ce soit trop le bordel, un peu plus calme que Macron, plus raisonnable. Je trouve que c'est pas un positionnement idiot. La seule chose, à mon sens, à laquelle il doit faire attention, c'est que son affaire ne devienne pas le radeau de la Méduse avec tous les losers qui s'agglutinent autour de lui pour essayer de survivre. Ça, faut qu'il fasse gaffe.
Ça ferait pas rêver, c'est sûr. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir débattu.